Alors nous avions pensé commencer par une lecture dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 1er. Romains 6, verset 1er. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Verset 12. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celle-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts, étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.
Jusque-là.
Alors c'est un passage très intense, un passage dense dans la parole de Dieu qui a des implications très pratiques. Et un aspect dont il est parlé ici, c'est celui du baptême. Nous l'avons lu au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
On a dans le passage au niveau de cette idée du baptême, dans une perspective, le point de vue qui nous intéresse dans la présentation, c'est de regarder à notre sanctification et à notre séparation pour le Seigneur Jésus comme peuple de Dieu. Puis on voit que le baptême est un élément qui est utilisé pour marquer, montrer, démontrer cette séparation-là qu'on a au Seigneur Jésus. Une chose qui est intéressante, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples dans Matthieu 28, peut-être qu'on peut regarder le passage de Matthieu 28, il a donné ce commandement-là, qu'on aille, au chapitre 28, au verset 18, on lit, « Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Donc, on a ce commandement du Seigneur d'aller, de faire des disciples. Et le baptême était un élément clé de cela pour marquer le caractère de ces personnes-là qui allaient croire en lui. Dans l'Évangile de Marc, c'est la même chose. C'est des passages qu'on connaît bien, où le Seigneur avait dit, au chapitre 16, dans Marc 16, c'est écrit au verset 15, « Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Donc le baptême ici fait partie, on le voit, non pas d'un élément qui sauve, parce que c'est écrit seulement celui qui n'a pas cru, il y a condamné. Mais celui qui a cru, ce qui le marque, c'est l'obéissance aussi à ce que le Seigneur demande. Et il passe par les eaux du baptême parce que le Seigneur l'a demandé. Et non seulement cela, le baptême est aussi une sorte de démonstration de ce que Christ a fait pour cette personne-là. Et c'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, bien sûr, Paul nous présente un aspect différent, un angle différent de ce que ce baptême-là signifie. Mais dans l'idée de notre séparation pour le Seigneur Jésus, il y a un élément important qui ressort par cet acte du baptême par lequel nous avons passé.
Mais c'est très important de voir l'ordre dans lequel ces passages nous donnent les événements. C'est qu'aller prêcher l'Évangile, donc il y a l'Évangile qui est la bonne nouvelle du salut. Et ensuite, ceux qui ont cru, il faut qu'ils soient baptisés. Croire, et puis passer par le baptême. Ce sont deux choses qui sont liées. Il ne serait pas normal que quelqu'un dise « Moi, je crois, mais je refuse de passer par le baptême. » C'est-à-dire que le baptême est un commandement de la part du Seigneur. Allez baptiser. Les commandements, le Seigneur n'en a pas donné énormément. On ne trouve pas une liste de commandements que le Seigneur ait donné durant sa vie aux disciples. Et pourtant, il nous est dit dans ce passage de Matthieu de baptiser, faisant des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a quelque chose qui est lié, ça ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas d'être baptisé pour... Et puis, point à la ligne, c'est fini. Non, la vie chrétienne commence. Et elle est caractérisée par quoi? Par un enseignement à garder. Et quoi? Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Or, combien de choses le Seigneur a-t-il commandé dans sa vie aux disciples? L'expression, on la trouve très, très rarement. Dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur dit « Je vous donne un commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. » Hormis cela, on ne trouve pas facilement où le Seigneur a dit « Je vous commande de faire ceci ou faire cela. » Mais, toute parole du Seigneur pour le vrai racheté s'impose au cœur. Et donc, la vie d'un croyant, quelqu'un qui vient de recevoir l'Évangile, c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? D'abord parce que ses péchés sont pardonnés. Ça, c'est la première chose que l'on comprend quand on vient à Christ. Mes péchés sont pardonnés. Je suis pardonné, je ne vais pas recevoir la colère de Dieu. Je n'irai pas en enfer, je vais aller au paradis. Mais le salut, c'est bien plus que cela. Et le salut implique désormais que nous sommes rachetés, que nous appartenons à un nouveau maître. Et donc, ce que ce nouveau maître, ce bon maître, qui est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur, dit, eh bien, ça devient un commandement pour mon cœur. Et le Seigneur désire que tous ceux qui croient se fassent baptiser. C'est-à-dire qu'il démontre publiquement, c'est un acte simple, il démontre publiquement que désormais, maintenant que j'ai reçu ce Sauveur, qui est aussi mon Sauveur, mon Seigneur, eh bien, ma vie a changé. je vais maintenant m'engager dans un chemin qui est appelé en nouveauté de vie.
On voit qu'aussi, on pose parfois la question de nos jours, c'est quoi croire? Seulement, c'est, qu'est-ce que c'est croire ou avoir la foi? Et puis, hier, on discutait sur ce sujet, tous les deux, et puis cette belle expression est venue, vraiment croire, pas comme les anges croient que Dieu existe et puis ils tremblent. C'est pas ce croire-là qu'il faut, ou croire que, si tu me dis, mais c'est vraiment croire dans le cœur. Et puis, ça transforme ta façon de penser et d'être. Une vraie, quand tu crois vraiment quelqu'un, quand tu crois Dieu, quand tu as la foi, ça change vraiment ta façon ou ta perception des choses. Autrement, c'est juste une information. Ça reste dans l'esprit, mais ça ne sauve pas. Mais lorsque ça produit ce changement-là, ça, c'est cette foi-là. Et puis, c'est là que le Seigneur dit, celui qui croit, il sera... et qu'il est baptisé, il sera sauvé. C'est vraiment ce changement-là de vie. Et c'est pour cela que la parole du Seigneur s'impose sur le cœur. Parce qu'on croit vraiment ce que Dieu a dit, et on en est saisi. Et puis là, ça fait un changement dans notre vie. Ce que le Seigneur dit devient important. C'est pas juste une opinion, c'est pas juste un choix ou une option, mais on s'y attache et on désire marcher selon ce que le Seigneur nous indique.
En nouveauté de vie.
Oui.
Tout à fait, donc... Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ce n'est pas croire en l'existence de Dieu. Ça, c'est vrai que dans le monde, le mot croire, il est très vaste. Par exemple, on pose une question, on me pose une question, je dis, je crois que oui. Ça veut même dire que je ne suis pas sûr. Mais dans le contexte biblique, quiconque a cru, ou quiconque croit à la vie éternelle, cela veut dire que ça change ma façon de penser et ça change ma façon de vivre. Et cette foi, on peut dire que c'est de la foi, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit. Et donner de la valeur à la parole de Dieu. Eh bien, en Romains 10, il est dit, verset 17, « La foi est de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. En fait, la foi qui sauve, c'est celle que nous entendons, c'est le message que nous entendons par la parole qui est ensuite confirmé par l'Esprit Saint qui agit. Et cette foi, on en a besoin pour être sauvé, mais on en a besoin aussi pour vivre en nouveauté de vie. Cette confiance en Dieu, cette valeur que nous donnons à ce que Dieu dit ou à ce que le Seigneur dit. Et si nous donnons de la valeur à ce que Dieu dit ou le Seigneur dit, eh bien, cela change notre façon de vivre concrètement, au quotidien.
Il y a un autre élément qu'on trouve dans le livre des Actes aussi. Relié avec le baptême, le relié avec cette foi et de passer par ces eaux du baptême, cette obéissance, c'est un aspect de la joie. Et puis on peut regarder dans Actes 8, il y a deux passages dans les Actes où on voit la joie qui est liée au baptême. Je vais lire les deux passages, puis je vais laisser mon frère commenter. Donc, Actes 8, 39, et quand ils furent remontés hors de l'eau, c'est l'eunuque et Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Il continua son chemin tout joyeux. Et c'est beau de voir cette expression liée avec le baptême, justement. Et dans Acte 16, on a le geôlier. Si je ne me trompe pas, Acte 16, au verset 30 à 34. Donc, on n'a pas les Silas. Et les ayant menés dehors, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit en cette même heure de la nuit et lava leurs plaies. Et sur le champ, il fut baptisé, lui et tous les siens. et il les fit monter dans sa maison et fit dresser une table et croit en Dieu. Il se réjouit avec toute sa maison.
C'est magnifique. La joie. Ce n'est pas une joie qui vient du monde. Ce n'est pas une gratification du monde. Ici, il y a la joie, bien sûr, qui est liée au salut. Quand on prend conscience qu'on est dans la faveur de Dieu. Mais il y a aussi la joie qui est liée dans ces passages en rapport avec le baptême. Donc le salut de l'âme, le fait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, va de pair avec le fait de l'accepter comme Seigneur. Et c'est quand même, on va dire, un grand sujet de joie de changer de maître. Parce que tant que nous étions inconvertis, notre seul maître, c'était le péché. Un maître qui nous rend misérables, qui dure, et qui nous emmène à la perdition. Voilà maintenant que nous avons un nouveau maître, un Seigneur. Et nous passons par ce baptême pour attester que désormais, nous sommes dissociés de cet ancien maître, du monde. Nous sommes dissociés du monde et nous sommes associés maintenant à Jésus-Christ. Et il continue son chemin, quand il s'agit de l'eunuque éthiopien, ici, il a entendu parler de l'évangile, du Seigneur, il a accepté dans son cœur. Il a très vite compris l'importance et la signification du baptême, le fait de prendre parti pour Christ dans ce monde, de montrer sa vraie couleur, qui est celle de Christ. Et il nous est dit, il continua son chemin tout joyeux. Et le chemin, pourtant, le chemin du chrétien n'est pas un chemin facile. Le Seigneur n'a jamais dit « Ceux qui croiront en moi auront la vie facile dans ce monde. » Non, au contraire. Le Seigneur a toujours prévenu en disant « Vous souffrirez à cause de mon nom. » Le Seigneur est rejeté du monde. Le chrétien maintenant doit marcher dans ce monde portant l'étendard, les couleurs du Seigneur Jésus, un Christ rejeté. Mais il y a la joie de marcher en nouveauté de vie, la joie, on pourrait dire, d'être approuvé de Dieu, la joie de faire ce qui plaît à Dieu, de chercher à lui plaire à tous égards. Et il y a cette joie parce que lorsque nous recevons le pardon des péchés, l'évangile, il y a le pardon des péchés, mais il y a aussi la nouvelle naissance. Cela veut dire que désormais, nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons selon le nouvel homme qui est créé en nous à l'image de Christ. C'est comme ça que nous devons envisager la vie chrétienne, non plus par la chair, mais par le nouvel homme qui trouve sa joie dans la relation avec le Seigneur. Et cette joie, elle surpasse les difficultés et les problèmes. Même si les problèmes sont là, les difficultés sont là. Cette joie, elle existe. On trouve dans les Actes que les premiers disciples, les premiers apôtres se sont fait battre, se sont fait fouetter. Et en sortant, ils s'estimèrent, ils se réjouirent, ayant été estimés dignes de souffrir pour le nom. Pour le nom du Seigneur. Vous voyez que cette joie, elle est réelle. Pourtant, quand on vient de recevoir des coups de fouet, on aurait plutôt tendance à pleurer et à se lamenter. Mais voilà la force de la puissance de la vie chrétienne après avoir pris position pour Christ. Et le baptême, c'est une façon de montrer sa position pour Christ. Et c'est pareil pour ce geôlier à Philippe. Nous le voyons là, dans la joie. Cette nuit-là, pourtant, quelques heures auparavant, il désirait se suicider. Il n'y a pas d'espoir. C'est voilà un homme incrédule qui qui avait un gros problème. Mm-hmm. Et puis ce jour-là, cette nuit-là, il a connu l'Évangile. Il a connu le Seigneur Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Mm-hmm. Et nous voyons qu'il se réjouit.
Et la grande question, c'est est-ce que nous, on se réjouit encore de notre baptême? Hein? L'eunuque, c'est une excellente question. L'eunuque est parti tout joyeux, continuer son chemin. Puis nous, après 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, je suppose qu'on... Si j'en dis trop, là, mais... Est-ce que la joie est toujours là, tous les jours? Mmh. On doit dire que si on regarde à nos émotions, des fois, les hauts, les creux, les montagnes, les vallées, les abysses, mais garder cette joie, est-elle toujours là? Et puis, c'est un encouragement pour nous, justement, de regarder, de ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que signifiait notre baptême, et de regarder devant nous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, qu'est-ce que c'est que de vivre ce baptême-là, encore aujourd'hui, quotidiennement. Donc, on a, premièrement, l'image que le croyant doit être dissocié du monde. C'est ce qu'on trouve ici. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Ainsi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc, c'est une belle image, une belle expression qu'il y a quelque chose de nouveau maintenant qui doit paraître dans la vie du croyant, ou qui déjà paraît, parce que le baptême n'est pas tout le temps à l'instant même du salut. On a un premier passage dans Galates 6, verset 16, qui nous... présente cela où on a écrit
le verset 14, hein?
Qu'à partir de 14, d'accord. Tenez donc ferme ayant saint vos reins. Je suis dans Éphésiens, excusez-moi. Je trouvais ça bizarre aussi le verset 16. Voilà.
Donc Galates 6, vas-y. Verset 14, non?
Vas-y, vas-y, vas-y.
Verset
16. 6, 14. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Car ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Donc c'est vraiment le verset 14, le monde m'est crucifié et moi au monde. Et au chapitre 2, on a aussi le même expression au verset 20, où il dit « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. »
C'est magnifique de voir ça. « Il ne m'arrive plus à moi de me glorifier sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce contexte, le mot « se glorifier », ça veut dire « trouver sa joie. » Nous nous glorifions en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la gloire pour nous. Ça veut dire qu'il y a de la joie pour nous. Il y a du bénéfice pour nous. Et donc, là, il n'arrive pas à moi de me glorifier sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié. Alors là, on trouve la pensée que le fait que le monde nous soit crucifié et que nous sommes crucifiés au monde, en fait, est une source de joie. Ça peut paraître paradoxal quand on aborde la question par la chair. Quand j'étais plus jeune, on disait « Oh, être crucifié au monde, ça n'a pas l'air très attrayant, parce qu'il y a les attraits du monde, et on se distance des attraits du monde. » On s'est dit « Ouf, ça ne doit pas être très, très joyeux comme vie. » Mais au contraire, se distancer des attraits du monde, du péché qui règne dans le monde, c'est une source de joie. Pas la joie du monde, pas les délices du péché qui viennent pour un temps et qui sont éphémères et qui laissent un goût d'amertume. Il s'agit de la joie que Dieu donne. Et nous devrions non seulement être heureux et joyeux d'avoir un sauveur, pas seulement d'être sauvé, mais d'avoir un sauveur, mais aussi d'avoir un Dieu et un Seigneur qui nous donne tout ce qu'il faut pour nous écarter, nous éloigner de ces mauvaises choses qui règnent dans le monde. C'est un sujet de joie, en fait, d'échapper à la corruption du péché, d'échapper aux conséquences du péché. Les péchés peuvent paraître, quand on est jeune, on ne comprend peut-être pas ça aussi facilement. Avec l'expérience, on comprend mieux. Quand on est jeune, on se dit, ouais, moi j'aime bien faire ça, ou ça, ou ça. Je me rends bien compte que ce n'est pas selon Dieu, mais ça me procure du plaisir. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas comparable à la joie que Dieu donne quand on s'en éloigne, par amour pour le Seigneur. Parce qu'on la sainteté s'impose à notre cœur, parce qu'on veut suivre le Seigneur, et le Seigneur nous emmènera toujours dans un chemin qui s'éloigne du péché. Et c'est un chemin de bénédiction. Nous devrions être joyeux constamment d'avoir un Seigneur qui nous montre le chemin qui nous éloigne du péché.
C'est ça.
C'est pour notre bien.
Puis tu parlais de cette joie qui est notre part, puis tu m'avais partagé quelque chose, j'aimerais que tu partages au sujet de quelqu'un qui dit que la vie du croyant doit être pénible.
Oui. Parfois, on a cette pensée où on entend cet enseignement à mi-mot ou insinuer que quand on vit comme chrétien dans ce monde et qu'on souffre, c'est bon signe. Ça veut dire que nous sommes spirituels. Attention, ouais. Bien sûr que la vie du croyant est une vie de souffrance sur la terre. Quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. D'accord. Mais ça, c'est quand on... C'est du côté de la chair. Nous, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons envisager la vie chrétienne dans ce monde, sur cette terre, selon le nouvel homme. Et le nouvel homme, il trouve quoi? Il trouve sa joie dans le chemin du Seigneur, même au travers des difficultés. C'est-à-dire que la vie du chrétien est une vie fondamentalement de joie. Dans la communion avec le Seigneur.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul écrit ça à partir d'où?
Prison.
Du fond d'une prison.
Prison. Où il a été torturé et tout.
Donc, la joie est un élément fondamental de la vie d'un chrétien.
Quand on ressent parfois, quand on a les jeunes, ah, mais on ne peut plus rien faire. Ah, mais des fois, on entend même des adultes, ah, quand j'étais jeune, je fais ça. Mais là, c'est terminé. Puis on sent un goût de ça me manque. C'est pas la joie du Seigneur, ça. Ça, c'est la chair qui est mortifiée, puis qui sent qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. Et c'est vraiment comme Hervé a dit, c'est voir la vie d'un point de vue charnel. C'est, on ressent juste ce qui nous manque, ce que notre cœur naturel aimait pourtant si bien dans ce monde, et aimera toujours jusqu'à ce qu'on meure. Aimera toujours. Mais c'est cela que l'apôtre nous appelle à mortifier. Il dit, maintenant, vous êtes morts à cela. Et puis notre joie, le nouvel homme, la nouvelle création qui est en nous, 2 Corinthiens 5, elle prend ses plaisirs dans les choses de Dieu. C'est tout le combat qu'on trouve dans Galates 6, entre la chair, et on trouve les fruits de la chair, et l'esprit, où on trouve aussi les fruits de l'esprit. Et il y a une lutte entre les deux, de sorte que nous ne pouvons pas faire ce que nous voudrions, c'est écrit. Mais c'est cela, justement. C'est si on rencontre soit des enfants de Dieu, ou des fois on trouve, ah, mais ceci, ça mène, non, je ne peux plus. Ouais. Ça, c'est la chair en nous. On sait que ce n'est pas le bon, c'est pas la bonne nature qui demande ou qui désire. Parce que la nouvelle nature qui doit vivre maintenant en résurrection de vie, on trouve dans notre épître aux Romains, qui est l'image de ce baptême, elle prend sa joie dans des choses du Seigneur.
Donc, vivre en nouveauté de vie, ça veut dire développer le nouvel homme qui est en moi.
qui est à l'image de Christ.
On est associé à Jésus, c'est ce qu'on trouve.
Ouais. Est-ce que nous trouvons de la joie d'être associés à Jésus-Christ comme Seigneur au cours du chemin? Ou est-ce qu'on en a plutôt de la honte ou de la crainte ou du regret? Si c'est le cas, alors c'est parce que nous laissons la chair prendre trop de place dans notre vie. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Puisqu'il est dit, si on revient en Romains 6, que nous sommes morts au monde. C'est bien ça l'expression.
Dans Romains 6, c'est surtout mort au péché, je
crois. Oui, mort au péché.
Dans Galates qu'on a
c'est
lu,
Galates.
C'était mort.
C'était dans Galates.
Galates 6, 14.
Nous sommes crucifiés au monde, nous sommes morts au monde. Donc les choses du monde, normalement, n'ont plus d'attrait. Si nous ne vivons plus selon la chair, les choses du monde n'ont plus d'attrait. Parce que les choses du monde n'ont pas d'attrait sur un mort. Et ne réagit plus à ce que le monde, à ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un est mort, il est totalement inactif quant à ce qui se passe dans le monde. Et dans Romains 6, l'expression qui est donnée ici, c'est que nous avons été baptisés pour sa mort. Ensuite, nous avons été ensevelis. Ensevelis. Alors, quand quelqu'un est mort, ben, on peut encore le voir. Par exemple, il est mort, quelqu'un est mort sur son lit, on peut encore le voir. Mais une fois qu'il est enseveli, on ne le voit même plus.
Non.
C'est-à-dire que notre vieil homme, notre ancienne façon de vivre, non seulement est considérée morte, mais elle doit être considérée comme ensevelie, c'est-à-dire on ne devrait même plus le voir. Parce que corps enseveli, il a disparu. Alors, bien sûr, et enfin, il a disparu de notre vue. Bien sûr, ça, ce sera l'état éternel. ce sera le cas une fois que nous quitterons la terre. Mais déjà ici, sur cette terre, nous avons le privilège de pouvoir vivre en nouveauté de vie. En 1 Corinthiens, il est dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire que nous ne sommes plus censés interagir entre nous au niveau de la chair, mais au niveau du nouvel homme. Mais pas seulement entre chrétiens, nous devrions aussi interagir avec tous, non pas au niveau de notre chair, mais au niveau de notre nouvel homme. Présenter aux autres. 2 Corinthiens, oui. 2 Corinthiens, chapitre 3, je crois.
5.
Voilà. 2 Corinthiens 5. Et donc, nous sommes censés, dans notre nouveauté de vie, interagir avec les autres au niveau du nouvel homme.
Cette nouvelle création. Et puis, c'est seulement intéressant, c'est très appréciable, cette image. Quand on est enseveli, on ne le voit plus. Parce que dans 1 Corinthiens 11, dans l'enseignement de l'Assemblée, on prend souvent cette image lorsque la sœur est voilée, que la gloire de l'homme est cachée. Autrement dit, c'est la gloire de Christ qu'on veut voir. Puis, dans notre vie comme croyant aussi, c'est plus moi qu'on doit voir, le vieux Alexandre, le vieux Hervé, le vieux chacun d'entre nous, l'homme naturel, mais ça doit être Christ qui doit être vu. Et ça revient au passage de Galates chapitre 2 hein, qu'on a lu. Je suis crucifié avec Christ et pour moi, c'est là qu'on est. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle chose. Ça nous dépasse, hein? On doit vraiment demander la grâce du Seigneur à chaque jour, mais ça fait partie de vivre ce baptême, d'en avoir une pleine réalisation. Le Seigneur. La vie du Seigneur, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est ce qu'il nous a invité de faire dans notre passage de Romains chapitre 6. Donc, les versets 3 et 4 nous le présentent. Donc, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du ciel, que ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et au verset 11, de même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Et c'est la deuxième mort qu'on voit, c'est-à-dire on voit qu'on est mort au monde, crucifié au monde. Ici, on voit qu'on est maintenant mort au péché. Donc avant, l'apôtre, il prend le temps d'expliquer dans tout le chapitre qu'on utilisait nos membres, nos corps, nos mains pour le péché. C'est au service du péché pour satisfaire nos désirs que nous avions. Maintenant, le Seigneur nous appelle à quelque chose de nouveau. Il dit ça, c'est mort pour le péché. Qu'est-ce que je fais alors? Je reste couché dans mon lit puis je ne fais plus rien?
Non.
Alors quoi?
Ce n'est pas un principe inactif, puisque la vie, c'est un principe de vie.
Voilà.
Mm-hmm. Il faut que la vie se manifeste. Il faut que la vie soit
par toute la terre.
Mm-hmm. Que la vie soit vue, la vie divine soit vue au travers de chacun d'entre nous. Mm-hmm. Nous avons reçu cette vie de la part de Dieu. Elle doit être évidente.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et bien sûr, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, par nos propres forces, en disant « Oui, je vais me prendre en charge et vivre en nouveauté de vie. » Non, non, tout est grâce et dépendance. C'est-à-dire que maintenant que nous avons reçu ce nouvel homme, cette nouvelle nature, et en plus l'Esprit-Saint qui va animer cette nouvelle nature, eh bien nous sommes censés vivre selon ce nouvel homme sous la direction de l'Esprit-Saint. C'est le travail de Dieu en nous. L'Esprit-Saint est Dieu. Il travaille, il opère en nous et à travers nous. Il faut lui laisser la liberté de faire. La parole nous dit que nous sommes exhortés à être remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit n'est pas un état qui devrait être exceptionnel. C'est un état que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, rempli de l'Esprit, de laisser libre cours à l'Esprit-Saint de me diriger dans mes choix, dans mes actions, dans mes paroles. Au quotidien. Pas uniquement à l'heure de la réunion ou à l'heure de faire quelque chose d'extraordinaire ou d'exceptionnel. C'est un mode de vie. L'expression être rempli de l'Esprit en Éphésiens 5 est donnée dans un contexte du quotidien, des relations dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, etc.
On trouve cette expression, ce que Hervé nous décrit justement dans le verset 13 du chapitre aux Romains. « Mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant fait vivant, et vos membres à Dieu, comme instrument de justice. » Alors, j'aime beaucoup ce passage, comme d'autres aussi. On aime tous les passages à parole, hein? Mais dans notre contexte ici, c'est un beau passage, parce que ça nous montre que la vie du croyant n'est pas juste une vie intellectuelle. Donc souvent, on a, dépendant de nos personnalités, c'est plus grave chez l'un que chez l'autre, on a la vie d'assemblée, puis on a le reste de la vie. Puis bien qu'on sait qu'il faut avoir un témoignage partout, c'est dans des boîtes beaucoup. Puis quand ça devient aux choses de Dieu, mais c'est spirituel. Ah oui, le ciel, ça vient. Puis ah oui, en Christ. Puis on parle de ce qu'on a, mais ça reste très intellectuel. On a beaucoup de peine à agir. Mais ici, autant qu'avant, je pouvais prendre ma main pour boire de l'alcool, que je pouvais prendre mes pieds pour aller dans les lieux de débauche, que je pouvais utiliser ma parole pour dire des choses méchantes, ou toutes sortes d'autres crimes ou de péchés, qu'ils soient pas si graves que ça, qu'on pourrait dire, ou très, très graves. Maintenant, Dieu désire aussi que pratiquement, avec mes membres, j'utilise pas juste mes yeux puis mon cerveau pour être intellectuel et lire des choses, mais que pratiquement, cette vie soit en effet démontrée. Que ce que je suis, ce que je fais, je veux le mettre au service du Seigneur. Donc, il y a un aspect bien matériel aussi à cela, un aspect bien pratique dans la vie du croyant. Et on trouve beaucoup de ces choses-là dans cette conformité à la mort du Christ, pour ainsi dire. Oui, mourir, c'est une réalité, mais après, il y a l'aspect tout positif de vivre à Dieu. Là, il y a un éventail de choses qui se présentent devant nous, qu'on peut faire.
Dans ce cadre, on peut lire Romains 12, les deux premiers versets.
Romains 12, les deux premiers versets.
Ouais.
Je vous aide donc, frère, par les tentations de Dieu, à présenter mon corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent, et ne vous conformez pas à ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Bien. Et puis, il y avait un autre passage qui m'était aussi arrivé quand on parlait de la joie dans les souffrances. Il y en a un qui l'a réalisé avec l'apôtre Paul dans Colossiens, je crois, 3. Il peut dire, donc, Colossiens 1, le verset 24. Il dit, maintenant, je me réjouis dans les souffrances. Pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions pour Christ, des afflictions du Christ pour son corps qui est l'assemblée. Donc c'est l'expression je vais vous jouir dans les souffrances dont l'apôtre Paul parlait là. Par rapport à la joie qu'on peut avoir, nous savons. Et tout le chemin de l'apôtre Paul, nous savons cette promesse solennelle que le Seigneur lui a faite. Je lui montrerai combien celui-là va souffrir pour moi. Et quelle joie ça a été pour lui. Dans toutes ses souffrances, malgré tout ce qu'il connaissait. Parce qu'il avait le Saint Jésus devant lui. C'était l'objet de des affections de son cœur. C'était et le motif de ses actes. Donc c'est là où c'est différent. Il vivait en nouveauté de vie, justement.
Voilà. Exactement. C'était vraiment le nouvel an.
Oui, donc.
Il y a plusieurs formes de souffrance. Il y a les souffrances. Il y a un temps que dit dans la parole. Et puis c'est dans Romains, il y a souffrance pour. Attendez, je vais. Souffrance pour. Il y a plusieurs souffrances pour le royaume, souffrance pour. Je peux trouver. Attendez, pas aimé, mais je vais trouver.
Oui, il y a surtout deux sortes de souffrances, on pourrait dire. Il y a les souffrances qui nous arrivent à cause de nos propres fautes, de nos inconséquences, de nos propres péchés, à cause de notre chair. Pierre 2. Et puis il y a les souffrances qui nous arrivent à cause de notre fidélité au Seigneur. Alors, les souffrances qui nous tombent dessus à cause de notre propre faute, c'est dommage. Ce n'est pas comme ça que nous sommes censés vivre.
Non.
C'est les résultats de la chair. Mais les souffrances à cause de notre fidélité, c'est les souffrances qui sont liées à la marche en nouveauté de vie. Et c'est celle-là qui apporte de la joie. Les autres, non. C'est seulement celles, les souffrances qui sont liées au nom du Seigneur Jésus qui nous apportent de la joie. Ouais. Pas les autres.
Donc, les versets, c'est, il y a dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 5. Donc, les souffrances. Donc, là, on nous a parlé de la souffrance pour le royaume. C'est-à-dire, lesquelles sont une démonstration du jugement de Dieu pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Donc, ça, c'est les différents types de souffrance pour Dieu.
2
Thessaloniciens 1, le verset 5.
Okay.
Et aussi, on en a parlé dans 1 Pierre 3, le verset 14. Ça, c'est souffrir pour la justice.
Oui.
Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux. Et ne craignez pas le Christ, ne soyez pas troublés. Et puis, il y a 1 Pierre 2, le verset 20, qu'on en a parlé.
1 Pierre 2, 20, oui, c'est ça.
Donc, là, c'est pour avoir bien fait aussi pour la justice, souffrir et en faisant du bien. C'est ça. C'est dans le cas, quel bruit y a-t-il si souffrir pour avoir fait mal ou l'endurer? Mais si, en faisant du bien, vous souffrez et que vous l'endurez, cela est digne de louange devant Dieu.
Souffrez pour le bien.
C'est joli comme expression, digne.
Digne de louange, oui.
Et donc c'est important, je répète ce qu'Alexandre a dit, de ne pas avoir une vie chrétienne uniquement contemplative des gloires du Seigneur. C'est nécessaire, il faut contempler la gloire du Seigneur dans notre communion, dans notre méditation. Mais si nous voyons véritablement les caractères et les perfections de Christ par l'Esprit, il y aura forcément un impact pratique. Nous ne pouvons pas rester uniquement contemplatifs. La vie chrétienne est une vie de fait et une vie d'action. Ce qui s'oppose à la oisiveté. La parole parle de la oisiveté. Alors on peut être oisif physiquement, mais on peut être aussi oisif spirituellement. On peut tomber dans une paresse spirituelle. Et alors on trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas faire. Et ça c'est dommage, parce que lorsque l'on ne fait pas ce que Dieu a préparé pour nous, les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous, dont il est parlé en Éphésiens, eh bien, nous en éprouvons une perte. Et le Seigneur aussi. La gloire n'est pas rendue au Seigneur, et nous en éprouvons une perte. Et une des pertes, c'est que nous perdons la joie de notre vie chrétienne. Parce que nous ne sommes pas sur cette terre en tant que chrétiens pour ne rien faire. Alors nous perdons le sens de notre vie
avec le Seigneur. Oui,
exactement. Et nous en perdrons aussi la joie. On peut lire dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1. Passage qui veut bien nous montrer qu'il est question de pratique, question de faits, d'actes qui doivent être manifestés, qui doivent être évidents dans la vie d'un chrétien. Alors nous pouvons lire 2 Épître de Pierre, chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, et apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée.
Et puis on voit ici, justement, dans ce passage de 2 Pierre 1, une transformation corps, âme, esprit de la personne. Donc il y a beaucoup d'éléments. Donc la foi, c'est très intangible, hein? C'est l'esprit, c'est personnel. Il va avoir un impact sur mon comportement, la vertu qu'il faut ajouter, la connaissance. Donc mon intelligence, comme on a lu dans Romains 12, doit être renouvelée maintenant. Elle doit être instruite des choses de Dieu. La tempérance, donc mon comportement, la patience, la piété, donc ça s'exprime extérieurement. Si je suis toujours impatient, colérique, et puis pris par mes impulsions, le Seigneur veut produire maintenant. Non, t'es mort à ça, c'est terminé, t'as été enseveli. C'est de quoi le baptême nous parle maintenant. C'est moi qui dois être reflété. Donc ça se passe par cette transformation-là, et l'affection fraternelle, et l'amour de Dieu. Ces choses-là doivent se produire activement dans notre vie. L'autre aspect qui est plus mécanique extérieure. On a vu que nos membres étaient livrés au péché. Maintenant, nos membres doivent être livrés pour le service du Seigneur. Même que le Seigneur dit que, 1 Corinthiens 6, qu'on est maintenant une chair avec lui. C'est un mystère extraordinaire. On fait une seule chair avec le Seigneur maintenant. Un seul esprit. Une seule chair, c'est Éphésiens chapitre 5, où l'apôtre dit, les deux seront un. Et il dit, c'est un mystère. Mais, en 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Chapitre 12, on est les membres du corps de Christ. Et dans Romains chapitre 12, on est, encore une fois, les membres du corps de Christ. Il dit, maintenant, selon la proportion de foi que vous avez chacun reçue, selon vos capacités, votre don, mettez cela à l'usage et faites le bien. C'est ce qu'on trouve à la fin, que celui qui le fasse soigneusement, etc., etc. Donc, on voit ces expressions où le Seigneur désire vraiment que matériellement, il y a cette transformation intérieure, mon esprit, ma pensée, mon caractère, ce que je suis, pour que ce soit le nouvel homme, et puis aussi extérieur, dans un service vraiment pratique, pour le bien de tout le corps de Christ.
Et tout vient de Dieu. Toutes les ressources. C'est pas nécessaire d'essayer d'inventer ou de fabriquer une piété. Non, nous avons lu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Et, donc la vie sur terre aussi, hein, la vie pratique. Nous avons tout reçu pour être capable, nous avons été équipés désormais pour être capables d'accomplir la justice de Dieu dans notre corps, au travers de notre corps. Et c'est tout ce qui regarde la piété. La piété est un mot en grec qui veut dire bien recevoir, c'est-à-dire faire bon usage de ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Dieu donne. Il nous a donné la nouvelle nature. Il nous a donné l'Esprit Saint. Quel usage est-ce que nous en faisons? Il nous a donné aussi bien d'autres choses. Il nous donne beaucoup de choses aussi dans notre vie quotidienne. Comment allons-nous bien utiliser ce qu'il nous donne? Pour la justice, pour ce qui glorifie le nom du Seigneur. Eh bien voilà. Et il est question ici de participer de la nature divine. Non plus participer de la chair. Participer de la nature divine, ça veut dire, dans la pratique, vivre à l'image de Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, mais il nous a laissé un modèle parfait. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu dans la chair, est venu dans la chair pour nous laisser un modèle que nous pouvons suivre. Et il nous est dit ici que nous ne sommes pas censés être oisifs ni stériles. Ça, c'est le verset 8. Si ces choses sont en vous, il ne suffit pas qu'elles y soient, mais il faut qu'elles y abondent. C'est comme la différence entre être habité de l'Esprit Saint. Nous sommes tous habités de l'Esprit Saint quand nous croyons, mais nous ne sommes pas tous forcément remplis de l'Esprit Saint. Et même si je le suis aujourd'hui, je ne suis pas sûr moi-même de l'être encore rempli de main. Habité, oui, pour toujours. Mais rempli de l'esprit, ça dépend de moi, de la liberté que je lui donne. Il faut que les choses que Dieu nous donne, elles soient non seulement nous, mais qu'elles y abondent. Il faut leur laisser la place. Il faut faire de la place dans notre vie pour que les choses de Dieu puissent s'installer. Il faut faire du ménage. Et puis, si ces choses y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles. Quant à quoi? Pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur, c'est la connaissance d'une personne. Ce n'est pas la connaissance d'un académique de quelque chose. C'est la connaissance d'une personne. n'est pas une connaissance qui donne de l'orgueil, c'est une connaissance, au contraire, qui nous rend humbles. C'est la connaissance dont l'apôtre Paul parle en Philippiens 3, qui nous détache du monde. On peut le lire, hein? On peut le relire. Ce n'est pas seulement une connaissance, c'est une connaissance excellente. Quand on n'est pas oisif et stérile spirituellement, eh bien voilà ce qui se passe. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, le verset 7, « Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes ces choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes choses, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui. » Vous voyez cette connaissance de Christ, il le dit, mon Seigneur, celui qui a autorité, celui que je suis dans la vie. Et bien, à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, et bien, à cause de cela, les choses du monde n'ont plus d'attrait. À cause de cela, dans la pratique, concrètement, et bien, l'apôtre Paul vit en nouveauté de vie, mort au monde, mort au péché, crucifié au monde. Les choses n'ont plus de valeur. Pour un mort, les choses du monde n'ont plus aucune valeur. L'or, l'argent, les plaisirs, le sport, pour un mort, tout ça n'a plus aucune importance. Et c'est dans ce contexte, dans cet épître, où il est parlé plusieurs fois de réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit réjouissez-vous dans le Sauveur, qui peut être juste aussi. C'est dans le caractère de Seigneur qu'il nous invite à nous réjouir. Dans le Seigneur, dans celui qui a autorité, dans celui qui vous dirige dans ce nouveau chemin.
Oui, tout ça, c'est rentrer dans la pleine réalisation. C'est vivre pratiquement chaque jour, justement, ce baptême-là par lequel on a passé. Ce baptême qui nous associe au Seigneur Jésus. Ce baptême qui nous parle, oui, d'une part, il y a du baptême de l'Esprit. Ce baptême aussi qui nous parle de notre ensevelissement, d'une façon particulière, avec le Seigneur. On est associé à lui dans sa mort maintenant. Et puis on est associé à lui maintenant en résurrection aussi. Lui qui est à la droite de Dieu, qui vit pour nous, est sanctifié pour nous aussi. On lit dans Jean chapitre 17. Eh bien, nous aussi maintenant, être ici sur terre comme lui est dans les cieux, d'une façon positive, avoir cette vie, c'est entrer pleinement dans cette vie nouvelle par le nouvel homme qu'on a reçu.
Et tout ça, nous le devons à l'œuvre de Christ accomplie une fois pour toutes à la croix. C'est pour ça qu'il nous est parlé dans le Nouveau Testament de ce si grand salut. Ce salut, il englobe tellement de choses merveilleuses, mais aussi de Dieu, y compris de pouvoir être séparé du monde, mort au péché, déjà durant notre temps sur la terre. C'est une grande bénédiction.
Séparé du monde, mort au péché, mort à la loi.
Mort à la loi.
Aussi, mort à la loi. Dieu ne veut pas qu'on vive une vie remplie de règlements, de règles. Ah, oh, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais une vie libre. Libre dans le Seigneur Jésus, libre pour faire le bien. Ce n'est pas en imposant plein de règles que ça fonctionne, cela. Notre cœur, naturellement, ne devrait pas aimer faire ce qui est mauvais. Puis il ne faut pas essayer de mettre des règles pour empêcher de faire ce qui est mauvais. Non! Pour ça, il faut mourir à soi-même. C'est ça la clé de tout. C'est pas en imposant des règlements, fais-ci, habille-toi comme ça, fais comme ça, tant de fois par jour, fais-ci. Non, tout ça, Dieu n'a rien à faire avec cela. Avoir de la discipline personnelle, c'est très bon. Voir se lever tôt le matin, la discipline, je prends de telle heure à telle heure avec le... Ça, c'est bon, une discipline personnelle. C'est différent d'imposer des règles pour être religieux, paraître pieux, pour tenter de vivre la vie chrétienne pour plaire à Dieu. C'est deux choses différentes. D'une part, on veut croître dans la connaissance. D'une autre part, on veut avoir du temps pour des services pour le Seigneur, comme il met devant nous. Mais des règles pour plaire à Dieu, la loi? Non, on est mort à ça aussi. Le Seigneur ne veut pas cela. C'est vraiment une vie nouvelle. Laisser ce nouvel homme s'exprimer librement. C'est un défi pour chacun de nous chaque jour, mais le Seigneur nous a donné les ressources pour le faire. Il ne nous demanderait pas quelque chose qui est impossible. Il nous a placés dans la liberté.
Dieu nous a donné tout, ce qui concerne la vie et la piété. Il n'a rien retenu.
Non, exactement.
Et alors, ce qui est important, c'est de définir la vie. La vie, si on prend déjà dans la Genèse, tout au début, Dieu parle à Adam et lui dit, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais de celui-là, tu n'en mangeras pas. Pourquoi ? Il lui dit, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça veut dire à coup sûr, hein ? Ça veut pas dire peut-être. Ça veut dire à coup sûr, tu meurs si tu manges de ce fruit défendu. Qu'est-ce qu'il a fait Adam ? Il en a pris. Il en a mangé. Est-ce qu'il est mort ce jour-là ?
Non.
Si. Il n'est pas mort physiquement. Voilà, exactement. Il n'est pas mort physiquement.
C'est pareil.
Mais ce jour-là...
Physiquement, il n'est pas mort. Mais
physiquement, non. Mais spirituellement, il est mort. Et on voit dans la parole de Dieu que la vie est toujours... L'expression « la vie » est toujours liée à la relation avec Dieu. En Éphésiens 2, il est dit « quand vous étiez morts dans vos fautes et vos péchés ». Donc avant d'avoir la relation avec Dieu, par l'œuvre de Christ, nous sommes morts dans nos péchés. On peut jouer au football, on peut courir, danser, manger, on est mort. Le terme vie est lié à la relation. Donc, selon Dieu, la vie, c'est la relation avec lui. C'est très important, ça. En nouveauté de vie. Vous savez, tous les hommes qui naissent dans ce monde naissent avec un corps, esprit et une âme. Le corps est mortel, mais l'âme et l'esprit sont immortels, y compris chez les incrédules. Mais il n'est jamais dit qu'ils ont la vie éternelle. Ils ont une existence sans fin. Mais l'expression vie, elle est donnée seulement à ceux qui passeront cette existence dans la relation avec Dieu. Et nous avons déjà la vie maintenant. Déjà sur la terre. Et cette marche en nouveauté de vie, c'est ça. C'est la relation qui est rétablie avec Dieu, déjà de notre vivant ici sur la terre. C'est quelque chose de merveilleux.
Un beau verset dans Tite 1. Verset 1 et 2 à propos de la vie et de la relation avec Dieu. Paul, esclave de Dieu. L'expression esclave de Dieu. Une belle expression. Être esclave de Dieu, c'est pas forcé, c'est pas... Mais c'est... Et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est une relation. C'est une relation continue que Dieu nous offre maintenant. Et l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles.
L'expression « Paul, esclave de Dieu ». Je te fais remarquer que ce n'est pas Dieu qui l'a fait son esclave. c'est plutôt lui-même qui s'identifie comme un esclave de Dieu. Mmh. Donc ça nous parle de sa consécration. Mmh. C'est comme ça qu'il peut se réjouir dans tout ce que le Seigneur va lui faire traverser. C'est à ça aussi on est appelé. La beauté de vivre, la beauté de vivre. La vie de piété, une vie de consécration à Dieu.
C'est vrai de penser, et un esclave, c'est pas seulement, c'est quelqu'un qui met ses membres au service de quelqu'un, hein, physiquement.
Si c'est volontaire.
Et c'est volontaire. Mmh. C'est comme dans l'Ancien Testament, j'aime mon maître, mmh. ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Mmh. Ça s'impose au cœur.
Mmh. Mmh. Oui. Le Seigneur nous encourage à réaliser encore aujourd'hui un peu plus notre baptême, mmh. notre vie renouvelée en résurrection avec le Seigneur Jésus.
Oui. Oui.